Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground.
Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 6 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Je vous préviens dès l'introduction de cet épisode, nous avons rencontré des difficultés de son lors de l'enregistrement de cet épisode. Il va vous falloir donc tendre l'oreille pour pouvoir comprendre Rémi à certains moments. Les messages qu'il avait à faire passer étaient trop importants pour ne pas produire cet épisode. Je vous remercie donc par avance de votre indulgence vis-à-vis de la qualité de cette interview. La GPA a mauvaise presse, il faut bien se l'avouer. On entend de tout la concernant, et surtout de bien vilaines choses. Évidemment, les témoignages que l'on retient sont surtout ceux qui marquent, et donc ceux qui sont les moins enviables, un peu comme quand on regarde sur Google à quoi correspondent nos symptômes, et qu'en plus, on est un poil hypochondriaque. Alors, on a en tête l'exploitation du corps des femmes, l'enfant non remis aux parents d'intention, le dédit aussi du parent d'intention, le coût qui est certain, la difficulté d'accès à ce type de procréation, et on imagine se rendre dans des pays en voie de développement, et bien sûr, j'en oublie. Et puis il y a la manif pour tous, peu nombreux, comme le souligne bien mon invité, mais qui font tellement de bruit qu'ils contribuent à enfoncer des doutes qui nous chatouillaient déjà. Alors, cette semaine, je reçois Rémi, qui nous embarque dans son parcours de GPA à Toronto au Canada, mais surtout qui nous fait cheminer avec lui autour des idées reçues que lui aussi a dû déconstruire. Il voulait être papa, c'était évident, mais jamais la question de comment ne s'était posée. Quand il rencontre Grégoire, la coparentalité se présente pour être finalement écartée. Rémi nous guide durant cette interview dans les démarches qu'ils ont entreprises et nous donne des tips pour pouvoir faire des choix éclairés. Parce que finalement, la GPA est le plus souvent éthique quand elle est encadrée. On se rend dans des pays aussi, voire plus développés que les nôtres. Et nos enfants ont bien des papiers et une identité en arrivant sur le territoire français. Je vous laisse découvrir l'histoire de cette jolie famille qui a vu son parcours de GPA couronné de succès par la naissance de leur petite Ava en 2017. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet entretien tous les deux. Donc Rémi, en fait, tu es venu vers moi pour me raconter ton histoire que tu as déjà racontée auparavant sur d'autres médias, notamment à la radio, dans un épisode, tu peux m'en parler peut-être un petit peu, enfin on en parlera peut-être un petit peu juste après. Aujourd'hui, tu es venu vers moi parce que tu es papa.
Oui.
Et que tu es donc papa avec un autre papa. Tu as une petite famille bien à toi. Est-ce que tu peux me raconter, me raconter ta famille en fait?
Du coup, je m'appelle Rémi, j'ai 40 ans, je suis marié avec Grégoire et on a une petite fille de 3 ans qui s'appelle Ava et qui est née un peu plus de 3 ans au Canada suite à une gestation pour autrui.
D'accord, donc une petite Ava de 3 ans.
Exactement.
Donc, je dois préciser parce que souvent, je connais un peu les histoires où je suis sur les comptes Instagram, que je ne connais absolument pas ta famille et je n'ai jamais vu non plus de photos de votre famille. Donc, pour, voilà, c'est vraiment de la découverte pour moi aujourd'hui, totalement, on va dire. Est-ce que tu peux me raconter comment vous vous êtes rencontrés avec Grégoire ?
De façon assez, assez classique sur les réseaux sociaux. On a échangé sur Twitter et on a commencé à parler, pendant un certain temps jusqu'à se rencontrer et puis on ne s'est plus jamais quitté.
C'est marrant parce que finalement les réseaux sociaux c'est quand même pas, en tout cas sur mes épisodes c'est pas ce qui revient le plus.
Mais, bah voilà.
Mais effectivement ça reste une façon très classique de se rencontrer. Tu l'as rencontré en quelle année Grégoire ?
Je l'ai rencontré en 2013.
En 2013, d'accord. Donc juste avant ou pendant les débats sur la loi du mariage pour tous ?
Ouais, plus ou moins pendant. Enfin, ça avait déjà commencé puisque enfin, je le connaissais pas personnellement, mais à la première manif qui avait eu lieu, je l'ai aperçu, on se connaissait pas encore vraiment. Donc justement, c'était pendant les débats.
D'accord, ok. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu l'as aperçu, non pas pour la première fois, sinon tu n'aurais pas pu le repérer.
Je connaissais son existence.
Tu connaissais son existence, d'accord. Et donc, du coup, tu me dis que vous ne vous êtes plus jamais quittés, c'est-à-dire que vous avez tout de suite emménagé ensemble ?
Non, ça a pris du temps parce qu'on voulait. On était déjà, je veux dire, âgés, je ne sais pas très, mais on était déjà des vraies grandes personnes, on avait bien installé chacun de notre côté. Et du coup, on voulait attendre d'avoir vraiment envie d'habiter ensemble, d'être sûr de ce qu'on faisait et pas se précipiter. En fait, c'était un peu ridicule. Financièrement, qu'on passait notre temps ensemble, et qu'on payait de loyer pour rien, mais on a mis un petit peu de temps. Je crois qu'on a emménagé ensemble en 2014, de mémoire.
D'accord, oui, donc vous avez pris un petit peu de temps, effectivement. Bon, après, effectivement, quand on est déjà bien installé dans la vie, il faut aussi rompre nos habitudes.
Exactement.
Ok. Et vous avez dès le départ parlé de ce projet de parentalité ou c'est venu petit à petit ?
Assez rapidement parce que comme tu l'as souligné, en fait, on s'est rencontrés pendant les débats sur le mariage pour tous, ce qui fait que on était quand même plutôt disposés à aborder ces problématiques et ces questions qu'on se posait sans doute moins avant, j'imagine. En tout cas, moi, je ne les étais pas posées pareil avant. Et je sais que très très rapidement. Même, je crois, de mémoire, avant même qu'on soit réellement en couple, on a discuté de nos désirs de parentalité et de ce rendez-vous qu'on avait tous les deux sur le principe et dans nos rêves les plus fous, envie d'avoir des enfants. Mm-hmm. Donc, on en a parlé de façon un peu improbable de ce qu'on aimerait, si jamais c'était vraiment possible, mais ça ne l'était pas. On en a parlé une fois, mais très longtemps. Et puis après, effectivement, c'est revenu un peu plus tard, sachant que Grégoire avait initialement un projet de coparentalité qui était plus ou moins en cours quand on s'est connus, auquel je me suis greffé sans me greffer et qui n'a pas tout à fait marché, et tant mieux. Et après voilà, on a parlé, on a essayé de voir d'autres moyens de pouvoir concrétiser notre souhait d'avoir des enfants.
Et du coup, Grégoire avait donc déjà un projet de parentalité, en fait. Il était engagé dans quelque chose.
Oui, alors engagé, c'est un bien grand mot, mais il y avait un projet, effectivement, avec une connaissance à lui, pour le cas échéant, faire une coparentalité qui a capoté.
D'accord. Et quand toi, tu réfléchissais à avoir des enfants, tu t'étais projeté dans une technique où tu savais juste que foncièrement, tu aurais des enfants, enfin, fondamentalement, pardon, tu aurais des enfants.
Je sais.
Et sans te poser de questions.
Je pense que je me posais pas forcément beaucoup de questions. C'est vrai que à ce moment-là, jusqu'au moment, enfin, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais jusqu'au moment où on s'est vraiment tourné vers la GPA et qu'on s'est vraiment renseigné, etc., c'était quelque chose qui était plutôt inabordable pour moi, de ce que j'imaginais. Donc c'est vrai que j'avais pas du tout pensé, anticipé, conçu l'éventualité d'une GPA. Et j'imaginais que si c'était possible, ça serait plutôt vers une adoption que je me tournerais.
D'accord. Et quand vous en avez parlé avec Grégoire et qu'en plus toi tu as eu connaissance de ce projet de coparentalité, est-ce que tu connaissais tu avais une notion en tout cas de cette méthode et est-ce que c'était quelque chose qui était envisageable pour toi ?
Alors moi je connaissais, un peu ce travail dans le domaine du droit aussi, donc j'avais déjà été, dans le cadre de mon travail, confronté à ces questions, et donc je savais, après moi, à titre personnel, j'étais pas forcément très partant pour moi.
Ok, et est-ce que pour toi, c'était important ou pas, ou est-ce que tu avais envisagé de te marier avec lui avant le projet ? Comment a avancé votre histoire, en fait ?
En fait, on a effectivement cette histoire de coparentalité était présente sur tout le début de notre relation, puisque c'est quelque chose qui avait été évoqué entre lui et cette femme avant notre rencontre. Et c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Alors après, je pense qu'effectivement, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, que quelqu'un se greffe plus ou moins sur ce type de projet, c'est jamais simple. Je pense que c'est d'ailleurs aussi en partie pour ça que ça n'a pas prospéré, parce que je suis arrivé en cours de route et que je ne faisais pas partie initiale du plan, donc ça me paraît logique aussi. Et c'est vrai que quand ça s'est arrêté comme ça, c'est aussi que moi, il était assez triste de la chose. Je me dis, mais il n'y a pas de souci, en fait. Il y a d'autres moyens d'avoir des enfants et on va voir ce qu'on va faire, mais on aura des enfants, t'inquiète pas. Donc, on s'est inscrit dans une asso de parentalité gay et on a commencé à essayer de se rendre à certaines réunions jusqu'au moment où il y avait une réunion, c'était un samedi, sur, je ne sais plus comment c'était intitulé, mais en gros, c'était vraiment une initiation à la GPA, enfin, c'était vraiment les grandes lignes, etc. Et on n'en avait jamais parlé. Je me souviens lui avoir dit écoute, je ne sais pas ce que toi, quelle est ta position. Moi, je n'arrive pas à savoir aujourd'hui ce que je pense de la GPA. Mais il y a une réunion. Est-ce que ça te dit qu'on y aille ? Au pire, ce n'est pas pour nous. On a perdu 3 heures de notre week-end. Ce n'est pas très grave. Il m'a répondu qu'il était dans le même état d'esprit que moi. On y est allé. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était très agréable, que c'était. Que finalement ça semblait correspondre à ce que je voulais pour notre famille, notre histoire. Et puis voilà, du coup, on a commencé à se renseigner beaucoup plus sérieusement et à avancer et dans notre connaissance du process et dans notre histoire en même temps et du coup, un petit peu dans les prémices du parcours.
D'accord. Parce que c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent. Je pense que d'un avis extérieur ou d'un œil extérieur, on a l'impression que dans les couples gays, la GPA, elle est complètement intégrée dans les possibilités et que finalement, c'est acté. Enfin, tu vois, toi, tu me dis, et je trouve ça hyper intéressant, qu'il faut, toi aussi, enfin, que vous aussi, vous avez eu besoin d'avoir un cheminement pour savoir ce que vous en pensiez, si éthiquement ça vous convenait, si même financièrement, finalement, ça vous convenait.
Bah oui, déjà, enfin. Moi, je connais pas mal de garçons gays qui sont soit opposés, soit pas vraiment pour la GPA. Et après, au-delà de ça, alors je pense que, je te parle de ça, c'était pas il y a 50 ans, mais c'était il y a encore quelques années, et je pense que les choses ont quand même beaucoup évolué ces 3-4 dernières années. Et que, alors c'est peut-être parce que j'ai baigné dedans aussi, j'en sais rien, et mon avis est vicié, je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'à l'époque, j'avais pas une connaissance. Pousser du sujet, et tu parles de l'éthique, effectivement, je connaissais pas les différentes options qui se présentaient à nous, j'avais que ce qu'on nous mettait en avant, les détracteurs de la GPA, en somme, ouais, voilà. et l'idée que c'était atrocement cher et totalement faisable. Donc en fait, mes images, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça, c'est inabordable financièrement, et on exploite une femme sans réfléchir à ce qui va se passer pour elle après. Voilà, c'était en gros les images que j'avais, que je schématise un petit peu. Sinon, je serais pas allé à cette réunion, sinon.
Oui, finalement, les détracteurs de la GPA arrivent très bien à nous faire passer des discours, ou en tout cas des idées reçues.
Ils arrivent à nous conditionner. Oui, qui restent, parce que si on s'intéresse pas plus que ça à la question, on entend, enfin, finalement, quand on réfléchit, quand on regarde un peu avec précision, la manif pour tous, ils sont pas si nombreux que ça. Ils n'ont pas tant d'action que ça, mais ils sont extrêmement médiatisés. Donc, effectivement, ça reste. Et les autres courants qui ont un peu plus de réflexion, ou qui reflètent plus la réalité, ne sont pas spécialement mis en lumière et ils ne s'attardent pas sur eux. Donc, c'est vrai qu'on a cette image et ce discours qui reste et qui est latent, et c'est la seule chose qu'on entend, en fait, donc, quand on ne s'intéresse pas à la question.
Exactement. Donc là, vous avancez tranquillement sur votre process. Tu te souviens en quelle année c'était quand vous avez été à cette réunion ?
En 2015.
D'accord, en 2015. Et c'est quelle association par laquelle vous êtes
C'était
passé?
C'était la PGL.
La PGL, oui, bon, évidemment.
Les deux en même temps.
Oui, c'est ça. Il y en a pas beaucoup et celle-ci est quand même la plus connue. Donc,
c'est ça. D'accord. On a été à cette réunion et après cette réunion, on a commencé à se renseigner déjà par nous-mêmes. Et on a eu vent d'une association américaine cette fois qui s'appelle Men Having Babies, qui est basée à New York, je crois, enfin, peu importe, qui est un site internet qui regroupe tout un tas d'infos, alors en anglais bien sûr, mais sur la GPA. Il y a des forums, il parle des agences, principalement américaines évidemment. C'est vraiment un site c'est un peu mercantile parce que c'est américain et que la concurrence entre les agences là-bas est féroce parce qu'il y en a beaucoup. Mais ça permet de faire quelque chose, d'avoir une image assez large. Et ils se déplacent en Europe une fois par an pour faire, jamais trouvé de mot mieux que ça, parce que c'est pas très joli, pas plus, mais une espèce de salon, quoi, où il y a un certain nombre d'agences et de cliniques qui se déplacent, mais il y a aussi des intervenants et des témoins qui sont là. Et donc, ils étaient, je pense que c'était au mois de mai 2015, il y avait ce fameux regroupement à Bruxelles.
Bruxelles, d'accord.
Et qui tombait le week-end de notre anniversaire, donc on s'est dit de rencontre, c'est un signe, on va se payer un bel hôtel, on va aller passer le week-end à Bruxelles, et en même temps, on va à cet événement pour voir un peu ce qui en sort, et voilà. Et c'est vrai que je pense que ça a été l'événement qui nous a fait vraiment switcher, et se dire, évidemment que c'est ça qu'on veut, et notamment parce qu'il y avait des mères porteuses qui étaient là, qui racontaient leur histoire. Alors, avec le recul, il est évident que de toute façon, ça doit mal se passer pour certaines mères porteuses qui le vivent mal, parce que c'est quelque chose d'humain, mais forcément, ça se passe pareil pour tout le monde. Il est évident que celle qu'ils avaient invitée, c'est que ça se passait bien, qu'elle avait un score positif, mais sur le moment, c'est pas tout à fait son histoire, on se dit, mon père, c'est génial. Enfin, voilà. Et elle était assez, elle avait beaucoup de recul sur la situation. Elle expliquait vraiment son ressenti, après c'est un discours qui est un peu rodé, mais voilà, ce qu'on pouvait reprocher au process et ce qu'elle avait à répondre à ça, etc. Et c'était c'était rassurant de voir qu'une femme qui effectivement avait porté l'enfant de quelqu'un d'autre était là, nous racontait comment elle l'avait fait, était vraiment hyper heureuse de l'avoir fait, épanouie et de nous expliquer comment et pourquoi nous Européens braqués, ça lui posait aucun problème moral de le faire.
C'est intéressant de connaître. Alors, je ne savais pas. Je savais que certaines agences avaient des points en France, points d'accueil en France. Mais un congrès comme ça, je pense qu'effectivement, c'est...
C'est à peu près tous les ans, parce que je sais que... moi, j'ai des amis qui sont retournés à Bruxelles cette année, dans le même cadre. Et ça permet, du coup, parce que de mémoire, il y a toutes ces interventions. Donc, il y a des parents qui témoignent le matin. En fait, c'est plein de témoignages, donc de parents, de mères porteuses. Je pense que les associations parlent un petit peu également. Après, il y a effectivement, on peut rencontrer, il y a pas mal d'agences et de cliniques qui sont là, ils ont des stands et on peut les rencontrer, parler avec eux, poser des questions. Et l'après-midi, il y a des petits ateliers où on peut s'inscrire pour avoir c'est des entretiens groupés, après on peut avoir des entretiens déjà, des entretiens groupés avec certains intervenants qui présentent un peu plus leur fonctionnement, leur projet, etc. pour voir ce qu'il en est. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Et ça permet de, outre le fait de rencontrer réellement, physiquement, des professionnels qui pourront nous aider après, c'est pas la même chose qu'un site internet, ça permet d'avoir aussi une offre qui est assez fournie devant soi et on peut comparer un peu et rencontrer des gens aussi pour parler de notre projet, ce qui est plutôt rassurant et intéressant.
Oui. En fait, ça te permet de faire des choix vraiment éclairés et en plus de prendre des contacts finalement.
Exactement, et de savoir. Alors nous, ça nous a plus affirmé qu'on avait déjà un peu avancé dans le cheminement et on savait qu'on pensait qu'on voulait se diriger vers le Canada et ça nous a effectivement convaincu qu'on avait fait les bons choix et qu'on voulait rester au Canada et pas aller aux États-Unis.
D'accord. Parce que là, pardonne-moi, il faut que tu me le remémores, c'était les États-Unis qui organisaient le congrès.
Ouais, c'est une association américaine. En revanche, il y avait une agence canadienne.
Ils avaient quand même combiné les concurrents.
Exactement. Il y avait aussi une. Pas celle à qui on est passé, mais une bonne quand même.
D'accord, ok. Okay. Et qu'est-ce qui t'a donc fait confirmer qu'est-ce qui vous a confirmé que tu souhaitais passer plutôt par le Canada que par les États-Unis à part le côté mercantile qu'on connaît quand même.
Bah, déjà, pour le coup, d'accord là-dessus, le côté mercantile, alors surtout après être passé à ce congrès, où il y avait des petits spots publicitaires de chaque agence, etc. Enfin, c'était vraiment... je trouvais ça très joli. Après, je comprends et je comprends aussi qu'on a envie d'aller de se tourner vers les États-Unis parce que c'est plus sécurisant, parce que c'est tellement professionnel au final que c'est sur des rails et que tout va bien. À l'inverse, moi, ce côté mercantile pour ce projet-là me dérangeait, nous dérangeait. Et c'est vrai que le côté un peu plus. Alors, je sais que c'est en train de changer parce qu'il y a de plus en plus d'agences qui ouvrent au Canada. À l'époque, il n'y en avait que deux et demi. C'était un côté un peu plus familial, alors qu'il était, effectivement, on l'a vu par la Suisse, qui était peut-être un peu moins rassurant sur le cadre, mais le soutien, je ne sais pas comment dire, pendant tout le process, mais en tout cas, qui nous correspondait mieux pour le début. Et au Canada, les nerfs sont simplement défrayés, elles ne sont pas rémunérées, donc ça nous. On se disait aussi que sans doute elle faisait peut-être ça pour des meilleures raisons. Enfin, une fois, je généralise alors que c'est pas le cas. Il y a plein de entreprises américaines qui font ça pour très bonnes raisons. Mais là, on avait l'assurance que c'était pas pour la pâte du gain qu'elle le faisait, parce que c'était simplement défrayer leurs frais. Et l'agence avec laquelle on avait échangé, ce qui a achevé de nous convaincre aussi, c'est que c'était du coup la mère porteuse qui nous choisissait. Nous, on avait un profil à remplir pour se vendre, en gros. Et ce profil était soumis à des mères porteuses qui disaient là, eux, j'ai très envie de les connaître et est-ce que c'était possible. Et c'est vrai que ça me plaisait aussi, le fait que ce soit elle qui est l'ascendant, en fait, quelque part.
Ouais.
C'est elle qui prenait les décisions là-dessus, jusqu'à ce qu'on se mette d'accord, jusqu'à ce qu'on poursuive. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment elle qui était en position de force, ce qui allait totalement à l'encontre de l'image qu'on a en Europe, ce que je disais tout à l'heure.
Et au niveau de délai, parce que c'est souvent ce qu'on reproche au Canada dans la mesure où effectivement, jusqu'à présent, il y avait peu d'agences. Comment ça se passe ?
Nous, on a été super chanceux parce que quand on voyage autour de nous, ça a pris beaucoup plus de temps pour nous. Au niveau timing, on a signé avec l'agence en juillet 2015 et Ara, elle est née en mai 2017. Pardon.
Ouais, effectivement, ça a été relativement rapide.
Ça a été rapide. On a trouvé, alors on a eu des... quelques petites déconvenues pour trouver une donneuse, parce qu'il y en a deux qui ont laissé tomber au dernier moment, donc ça nous a fait entre guillemets perdre du temps parce qu'on avait bloqué les rendez-vous médicaux pour elle, etc. Donc, la première qui laisse tomber, on en trouve une deuxième, on perd du temps, etc. Et après, à partir du moment où on a trouvé la troisième et que les embryons ont été fertilisés, on a été mis en contact avec la mère porteuse. 3 mois et demi après, je crois, à peu près 4 mois, entre 3 et 4 mois après avoir nos embryons. Et après, en revanche, nous et elle avons voulu prendre le temps de se connaître vraiment avant de confirmer qu'on voulait faire ça ensemble. Donc ça a pris un peu plus de temps, mais pas. Encore une fois, on a signé en juillet 2015, je vais y arriver, et le premier transfert a eu lieu en août 2016.
D'accord, oui.
C'est quand même relativement rapide. Ouais.
Et au niveau, alors on va revenir un petit peu en arrière dans le process. Donc tu me dis que vous n'êtes pas passé par l'agence que tu as rencontrée sur le fameux congrès de Bruxelles.
Ouais.
Je
ne
vais pas te demander le pourquoi parce que ça c'est propre à chacun, je pense. Mais comment tu as fait la recherche, comment vous avez envisagé d'aller vers une autre agence et quels ont été vos critères en fait ?
En fait, on s'était renseigné sur un peu toutes les destinations possibles à l'époque. Et on avait vu, parce qu'après c'est pareil, sur la PGL, il y a des forums de discussion, donc on avait des discussions, on avait des infos par ce biais-là aussi, et on avait échangé avec les deux agences canadiennes, la façon de fonctionner de l'autre agence ne convenait pas forcément. Le retour qu'on avait eu, on n'a pas forcément accroché avec la dirigeance de l'agence.
D'accord. Oui, bon, ça, c'est clair que c'est une question de personnalité.
C'est
vraiment propre à chacun.
Exactement.
Et c'est très important d'être en confiance dans ce genre de démarche. Donc, il ne faut pas hésiter.
Ouais, c'est quelque chose qui est assez particulier. On a le bout du monde, ce n'est pas dans notre langue. C'est vrai que si de base, on n'est pas forcément absolument en confiance, je pense que c'est compliqué.
Ouais. Et d'ailleurs, tu évoques un point que je n'ai d'ailleurs jamais abordé, je crois. C'est vrai que souvent, c'est pas dans notre langue. Est-ce que les agences ont des interprètes ou des personnes qui sont bilingues pour, bilingues dans
Il y a certaines agences, oui, la nôtre, non, par exemple. Je sais que l'autre agence canadienne à l'époque, la dirigeante parlait français. Je sais qu'il y a certaines agences aux États-Unis qui ont des Français qui bossent avec eux, ce qui est plutôt pas mal. Mais pas tous, vraiment pas tous. Enfin, nous, je sais qu'il y a des personnes qui parlaient français à l'agence.
Ouais, c'est vrai que ça reste un des freins aussi à lever.
Bah, pour certains, je pense, ouais, effectivement, parce que ça demande quand même de bien parler anglais et de parler anglais dans plusieurs domaines, parce que tu as tout le côté juridique. À un moment, il faut que tu relises les choses que tu signes. Et alors, pour le coup, écrire un mail en anglais et relire un contrat en anglais, c'est tout à fait pareil. Et après, tu as le médical, parce que pendant le suivi de la grossesse, et là, tu es content d'avoir regardé l'urgence et classe d'anatomie en vidéo pendant des années, parce que tu arrives à comprendre, tu arrives à comprendre quelques mots que tu ne comprenais pas avant. Donc, c'est vrai que voilà, faut quand même avoir quelques notions d'anglais avant de se lancer, parce que c'est un peu compliqué.
Donc, en gros, le début du parcours, c'est de commencer par urgence et grise d'anatomie.
Exactement. Pendant un an et demi, et après, tu peux y aller.
Après, c'est bon. D'accord. Et donc, du coup, vous avez trouvé, donc, je suppose, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'agences à l'époque, que c'est forcément l'autre agence par laquelle vous êtes passé. Elle est située où, cette agence ?
À Toronto.
À Toronto, ok. Quel est leur process à eux ?
Du coup, leur process, ils font. Ils te proposent, tu n'es pas obligé de suivre, ils te proposent de passer par leur agence de donneuses et leur clinique. Après, tu peux passer par qui tu veux. Nous, on est parti du postulat que si c'était leur partenaire habituel, ils avaient tout intérêt à ce qu'ils soient sérieux et bien. Et que de toute façon, cette agence-là, elle fonctionne par les bouche à oreille, surtout à l'international. Donc, si on n'était pas satisfait, ça n'irait pas. Donc, on a suivi leurs accords. Donc, on est rentré en contact avec l'agence de donneuse et la clinique. Il y a tout un tas d'analyses médicales à faire qu'on a fait en France. Dans le même temps, c'est à peu près en même temps, on a rédigé ce fameux profil en anglais où on se raconte en fait, on raconte notre vie, on met des photos, on explique qui on est, un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, toi et moi, moi surtout, mais on développait, pour vraiment expliquer qui on est et donner envie à une femme de nous connaître et de porter notre enfant. Donc on faisait ça en même temps, de réussir à rentrer dans le truc, de choisir une donneuse, c'est pas la partie très cool au début, parce que c'est un catalogue sur Internet, au début, c'est un peu psychologiquement, c'est un peu compliqué quand même, de connecter à ça, parce qu'en plus, chez eux, parce qu'après, ça peut présenter autrement chez d'autres, mais chez eux, tu as une sorte de tableau avec une photo et vraiment quelques informations, et quand tu cliques, tu as un profil. Mais donc, c'est bizarre de regarder cette liste de photos, en gros, et de te dire, je veux elle. Quoi. Enfin, c'est un peu bizarre au début. Donc, au début, on passe pas mal de temps à regarder sans rien faire, pour apprivoiser le truc. Et puis après, tu as conscience de ce que. Que tu n'as pas le choix, et petit à petit, à force de lire les profils, tu te rends compte de ce qui est important pour toi, de ce dont tu te fiches, etc. Nous, je sais que déjà, on triait beaucoup les profils parce que on aurait, ce qui est le cas aujourd'hui, mais ce qu'on voulait vraiment, c'était d'avoir une donneuse connue. C'était hyper important pour nous, et il n'y en a pas beaucoup qui acceptent d'être connus, donc ça permettait d'en éliminer un certain nombre, et pour simplifier un peu le choix. Et après, une fois que tu as choisi ta donneuse, tu continues, parce que tu as déjà commencé avant, la partie administrative, et tu rajoutes le début de la partie légale et médicale, qui est vraiment pas cool. De toute façon, en gros, tant que ta marqueuse n'est pas enceinte, c'est pas quelque chose de très glamour et très excitant comme processus.
Ouais, c'est très administratif.
Ouais, exactement. Et après, il y a effectivement le voyage pour faire un don. Et après, c'est la clinique qui prend le relais jusqu'à ce que tu sois toujours sûr de tes choix et pourquoi tu les as faits, mais que tu regrettes un peu cette agence où toi tu ne fais rien, notamment une mère porteuse, parce que finalement tu n'as pas prise sur ce qui se passe et que tu as envie de les appeler tout le temps pour dire alors, ça y est, vous avez trouvé quelqu'un, et c'est horrible parce que c'est le premier moment de tout le process où tu n'as absolument pas la main et où tu ne peux rien faire, et ça devient très compliqué d'attendre parce que je te disais là, on a attendu 3-4 mois. Mais à ce moment-là, on a l'impression que ça a duré des années, quoi. C'est horrible.
C'est long, hein, 3-4 mois. C'est la moitié d'une grossesse déjà. Donc,
ouais, déjà, c'est vrai. Je ne l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai. Donc voilà, et t'attends, et après, on te présente. Et une fois, enfin, je ne sais plus exactement sur la chronologie, mais je crois que c'est une fois qu'on a matché avec Jennifer, on a un entretien avec une travailleuse sociale qui est assez long. Et là, on recommence effectivement un petit peu de légal et de médical pour accompagner sa préparation et son transfert. Et puis là, pour le coup, à partir du moment où tu commences à parler avec elle, tu rajoutes énormément d'humains. C'est là que ça devient cool. Et voilà. Puis elle, comme nous, on voulait effectivement une relation aussi sur la durée. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a attendu avant de dire oui, on peut continuer avec elle, parce qu'on voulait, on n'est jamais sûr que ce soit dans la vraie vie ou dans ce genre de cadre, hein, que ça va durer tout le temps. Mais voilà, on voulait être sûr qu'on s'entende bien, qu'on soit sur les mêmes valeurs, etc. Parce que, on puisse continuer à être en contact avec sa famille.
C'est vrai que c'est souvent ce que j'entends, le fait de vouloir avoir une relation sur la durée avec la mère porteuse. Alors, j'avoue que la première fois qu'on me l'a dit, moi, j'ai trouvé ça un peu étrange, parce que moi, j'étais du coup, dans notre cas à nous, dans une relation complètement différente. Nous, le choix du donneur anonyme était clair, net, précis, parce que justement, on ne voulait pas du tout de relation, du tout. Enfin, on ne voulait pas de connaissances, rien, tu vois. Et à force d'enregistrer des épisodes ou de découvrir des histoires de papa en GPA, qui sont passés par la GPA, je le comprends complètement. Je pense que c'est une part hyper importante finalement dans le process, ce côté humain avec la mère porteuse.
Il y a le côté humain. Et puis après, moi, je sais que j'avais fait à l'époque, toujours pour les mêmes raisons, hein, sur le début de la GPA, où je me dis qu'est-ce que j'en pense, c'est vraiment horrible ce qu'on va faire, à faire pas mal de recherches en plus des témoignages qu'on avait vus. Et de me rendre compte que finalement, alors c'est pas vraiment sur la GPA, mais ça se recoupe, que en fait, j'essayais de répondre dans ma tête à toutes les oppositions de la manif pour tous et des opposants. Et notamment ceux, on les arrache à un parent et ils vont avoir un manque, etc. Et en fait, en lisant des choses, je me suis rendu compte que, a priori, les enfants qui avaient un manque et qui recherchaient, c'était notamment les enfants adoptés, mais qui n'avaient pas accès à leurs origines, et que dès lors qu'ils connaissaient ces origines, ça allait beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, c'était une étude que j'avais lue. Et c'est vrai que nous, ce qu'on voulait, c'est que notre fille, enfin, notre enfant, parce qu'on savait pas à l'époque qu'on aurait une fille, mais puisse un jour, à tout le moins, même si on n'avait pas de vrai rapport récurrent avec la donneuse et la mère porteuse, qu'elle puisse, le jour où elle se posait des questions, ou si elle voulait poser des questions, si elle voulait, en gros, c'était le bien-être, au-delà même de l'aventure humaine qu'on a vécue avec ces deux femmes, le bien-être de notre enfant. Et de pouvoir apporter toutes les réponses à ces questions, le cas échéant, quand elle serait plus vieille.
Oui, vous étiez bien documenté du coup en amont. Et alors c'est vrai que la question souvent se pose par rapport à la mère porteuse, mais au niveau de la donneuse, vous avez aussi la possibilité de garder le contact ?
Oui, alors pas forcément toutes. Nous, je sais que comme je t'ai dit, on a eu deux mauvaises expériences sur le choix. Quand la première s'est désistée, l'agence nous a dit « je suis désolé, vous cherchez quelqu'un » et a mis en avant deux ou trois profils, je ne sais plus, dont un qui nous plaisait. Mais alors, c'est très moche, mais on nous dit que c'est bien de choisir les donneuses les plus jeunes possibles parce qu'elles ont plus d'ovules en général, leurs dons.
Elles sont plus fertiles.
C'est ça. Et en fait, cette jeune fille qui nous avait proposé, qui nous plaisait bien, était un petit peu vieille puisqu'elle avait, je crois, 25 ans. Avec le recul, c'est un peu ridicule. En tout cas, elle était plus vieille que d'autres. On disait, et en fait, elle avait déjà fait plusieurs dons. Elle donnait de moins en moins. Elle donnait de moins en moins d'ovules à chaque fois. Et on disait, mais mince, comme elle est encore vieillie, est-ce qu'elle va donner, etc. Donc en fait, on l'a pas retenue. On en a choisi une autre. Et quand l'autre s'est redésistée, on a redit, mais voilà, est-ce que vous pouvez nous conseiller, enfin nous proposer d'autres profils. Et on a remis celui-ci. Et on s'est dit, allez, mince, c'est pas grave. De toute façon, elle nous plaît depuis le début, enfin, son profil nous plaît, et puis c'est pas grave, on verra, allez. Et pour se fier à son instinct, on avait dit qu'on l'aimait bien et c'était juste ça qui nous prenait. Et en fait, quand on l'a choisi, on a dit à l'agence, bah, écoutez, voilà, c'est elle. La fille de l'agence nous a répondu, écoutez, ok, je vois avec elle si ça va, si elle est disponible et qu'elle peut faire un cycle maintenant. En revanche, je dois vous prévenir que je la connais, elle va vouloir vous parler, elle va vouloir vous connaître, est-ce que ça vous dérange? Non, clairement non, au contraire. Et du coup, on est toujours en contact. Le hasard a fait que notre donneuse et notre mère porteuse habitent dans la même ville.
Oui, c'est un super hasard, ça.
C'est un super hasard, qui n'est pas non plus une ville immense, que donc elle voulait être connue, que Elles sont très différentes, mais hyper chaleureuses toutes les deux. Et pour te dire, quand on est retourné au Canada, quand Ava avait un an et demi en vacances, pour les voir, et donc la donneuse avait organisé la date de son mariage pour qu'on soit là. On a relations hyper proches, on s'écrit, elle nous envoie des colis avec des cadeaux pour ma fille, on fait des Skype plus ou moins réguliers, c'est un peu dur. Mais avec les deux, on s'écrit, on a des nouvelles très régulières.
Oui, effectivement, c'est hyper convivial comme relation. Enfin, je trouve ça honnêtement, je trouve ça génial.
Nous aussi, on sait, enfin, en plus, on connaît depuis le tout début, depuis qu'on y est allé la première fois, on connaît leur famille tous les deux. Voilà, enfin, pour le coup, on a vraiment l'impression de faire partie d'une autre famille de le côté de l'Atlantique.
Oui, c'est vraiment incroyable. C'est vrai que j'avais déjà entendu que souvent, elles vous présentaient à leur famille, et ça reste notamment, enfin, c'est quand même un parcours aussi qui impacte la famille, donc finalement c'est normal.
C'est ça, en fait, au final, c'est vrai qu'au tout début, quand on est arrivé, en fait, on est allé au Canada la première fois, enfin, ensemble avec la, quand elle était enceinte de 5 mois pour l'échographie, 5 mois, on connaît le sexe, ça nous permettait de rencontrer tout le monde. Et donc, la mère porteuse et son mari sont venus nous chercher à l'aéroport, et avant de nous emmener dans notre Airbnb, on est passé chez eux. Pour voir, on a présenté les enfants, il y avait la mère de son mari, ses sœurs, et sur le coup, nous, outre le fait qu'il y avait 6 heures de décalage horaire et 8 heures de vol, on était un peu décontenancés de se dire, en fait, on vient d'arriver, il y a toute la famille, c'est comme ça, et au final, c'est vrai que t'as des décisions, surtout la mère porteuse, la donneuse un peu moins, mais ça impacte effectivement toute sa vie, toute sa famille.
Oui, clairement. Et c'est fréquent ces problèmes, entre guillemets, un problème de désistement des donneuses, parce que deux consécutives, c'est quand même pas de chance, quoi.
On a demandé à notre contact à l'agence qui nous expliquait que ça arrivait parce que c'est pas du tout les mêmes process de recrutement que les mères porteuses. Mmh. Et c'est vrai que là, par contre, le don, il est rémunéré et qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui font un don de réussite. Pour avoir un peu d'argent sur un projet quel qu'il soit, souvent c'est leurs études ou ouvrir un outil, enfin il y a plein de choses. Et c'est vrai qu'elles ne réfléchissent pas forcément aux conséquences. Et quand ça devient réel, il y en a un certain nombre qui se disent parce que, en fait, elles se sont inscrites en disant j'ai entendu parler de ça, c'est cool, j'ai juste, entre guillemets, à donner mes réseaux aussi pour avoir un petit peu d'argent. Et finalement, c'est quand même beaucoup plus engageant que ça. Je pense, de ce qu'elle nous disait, en tout cas, notre interlocuteur, c'était assez fréquent qu'il y ait des décisions après, parce que voilà, quand on prend conscience et que ça devient réel, on va dire, en fait, je crois que j'ai pas envie.
D'accord. Est-ce que le don est rémunéré au Canada?
Ouais.
D'accord. Et alors, donc, du coup, vous avez donc, on passe sur tout l'administratif. Une fois que donc, vous avez sélectionné votre mère porteuse, vous partez au Canada pour la rencontrer, c'est ça?
Une fois qu'on l'a sélectionnée, non, on l'a rencontrée que par
Vidéo.
Par visio et par écrit et les visio. On l'a rencontrée physiquement, elle était enceinte de 5 ans.
Ah oui, d'accord, ok. Et au niveau de, du coup, donc là, au niveau de la prise de la grossesse, on va dire, elle est tombée enceinte rapidement, vous avez dû faire plusieurs essais?
Deux transferts, on en a fait un au mois d'août. Qui n'a pas pris, et en fait, les Canadiens étant tout étant un petit peu plus à la bonne franquette et familiale qu'aux États-Unis ou en France, les résultats d'analyse prennent toujours un peu de temps aussi. Donc, on a eu confirmation de cette analyse, je crois que c'était un vendredi, ou un jeudi soir tard pour nous, je ne sais plus exactement, et on nous a dit, je sais que c'est la veille d'enquête, donc on nous a dit le vendredi, mais en fait, les garçons, il faudrait que vous re-signez tous les papiers en urgence parce que. Compte tenu de son cycle, si vous voulez qu'on recommence maintenant, il faut que vous signiez tous les papiers tout de suite. Donc, on a recommencé, le traitement, elle a recommencé le traitement immédiatement, et on a refait un transfert. Alors, le premier était début août, et on a refait, de mémoire, c'était le 20 septembre.
D'accord. Parce qu'en fait, tu dois signer tous les papiers, enfin, sur une partie des papiers du process pour chaque cycle.
Ouais. C'était pour autoriser, pour la je ne sais plus exactement, pour le process, je t'avoue que c'est un truc que j'ai un peu occulté. Mais c'était pour repartir pour la clinique, je crois, je sais plus.
D'accord. Et donc, du coup, deuxième transfert, et c'est réussi.
C'est ça.
Ah, super. Combien vous aviez d'embryons, du coup?
On en avait 4.
D'accord, ok. Parce que ça met aussi une certaine pression.
Ah, on est d'accord, parce que on n'avait pas, enfin, pour le coup, c'est pas énorme. Et c'est vrai que le premier raté, tu fais le deuxième transfert, tu te dis si celui-ci ne réussit pas, bah, il en reste que deux. Sinon, tu ne peux rien faire et pour autant, ça te met une certaine pression, effectivement.
Ah, mais c'est clair. Est-ce que le Canada te propose d'implanter plusieurs embryons?
L'agence te le déconseille.
D'accord.
Je sais qu'ils le font malgré tout si tu le demandes. Mais c'est pas la politique.
D'accord, ok. Ok. Et alors, quelle est votre réaction? Enfin, déjà, comment vous avez su que le test était positif?
On l'a su parce qu'elle ne s'est pas gardée un secret.
C'est elle qui vous l'a dit, donc.
C'est elle qui nous l'a dit. Elle était censée faire un test. Alors, du coup, je suis, à l'époque, je l'étais. Je suis plus expert dans les délais. Faire un test, je ne sais plus, genre 7 jours après le transfert ou un truc comme ça, je ne sais plus. Mmh. La veille ou l'avant-veille du fameux jour, elle n'arrêtait pas de me demander quand est-ce qu'on était dispo, parce que ce serait bien qu'on fasse un Skype. En gros, on comprend qu'elle veut faire un Skype pour le test se révèle, quoi. Et on se disait, soit elle l'a déjà fait et elle le sait, soit elle a perdu la raison et elle veut qu'on fasse en direct, ça va être atroce pour tout le monde. Et en fait, elle nous a confié après qu'elle avait déjà fait des tests urinaires. Et qu'elle en avait fait deux ou trois, je ne sais plus, et que, alors ça je l'ai appris aussi, je ne savais pas, mais toutes les femmes le savent, mais que la bande témoin elle est de plus en plus foncée, au plus t'as l'hormone. Et donc en fait, elle voyait que ça se fonçait chaque jour, donc elle voyait qu'après ça c'était bien parti. Donc voilà, et donc effectivement, comme on l'a enquiquiné quand elle dit ça, elle a lâché le morceau en disant qu'elle avait déjà fait des tests et que c'était positif, et elle nous a envoyé des photos de tous les tests mis bout à bout, et elle a continué à en faire, etc. Donc voilà.
Super. Et alors, comment vous avez réagi? Bon, bien, je suppose.
Plutôt mal, non, je rigole. Plutôt bien, effectivement. Après, non, c'est bizarre parce qu'on réagit plutôt bien, mais en même temps, c'est
pas concret.
C'est pas concret, donc c'est un peu compliqué de se projeter et de réagir correctement. Enfin, c'est un peu impalpable.
C'est un problème dans tous les couples. Au début, ça manque de concret.
Exactement.
Et elle avait déjà, je ne t'ai pas posé de question, mais par rapport à ça, au Canada, les mères porteuses, elles ont, pour pouvoir devenir mère porteuse, elles ont des critères à respecter, type avoir déjà des enfants.
Et ça, ouais, exactement. Elles doivent avoir au moins un enfant, déjà.
D'accord. Okay.
Donc, elle avait trois enfants.
Oui, donc elle savait bien de quoi elle parlait quand même.
C'est ça, c'est la première expérience en GPA, mais en tout cas, elle avait trois enfants.
D'accord, première expérience en GPA.
Ouais.
Ok. Donc ensuite, vous allez au Canada pour la rencontrer. Enfin non, je vais un peu.
Non, elle est enceinte d'abord.
Et voilà, déjà, donc elle est enceinte. Il y a la première écho, je suppose.
Oui, elle en a une, effectivement, assez rapide, où elle nous envoie les photos.
Mm-hmm.
On ne voit pas grand-chose, c'est pour les photos. Mm-hmm. Et là, pendant le début, c'est quand même assez. Même si c'est assez peu concret, c'est assez stressant parce qu'en fait, tu te réveilles tous les matins. Tu sais que tu n'auras pas de nouvelles jusqu'à 13-14 heures. Et oui. Pendant 3 mois, tu te dis est-ce qu'elle va bien? Est-ce que jusqu'à 13 heures, on va avoir un message pour me dire qu'il y a eu un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose? Enfin, du coup, c'est un peu.
Ouais,
c'est ça. C'est un peu compliqué. La distance n'est pas forcément aidante sur le coup. Mais ça permet aussi du coup de créer des liens parce que tous les matins. Alors, c'est horrible parce que c'est les habitudes. Tous les matins, elles nous écrivent souvent. Et si un jour, elles se lèvent un peu plus tard. Toi, t'es là et tu te dis qu'est-ce qu'il y a, pourquoi elle est là, qu'est-ce qui s'est passé.
C'est clair.
Donc c'est un peu. Et ça permet, du coup, voilà, on parlait tous les jours, on continuait à se lier. Voilà. Elle nous envoyait régulièrement des photos. Alors, pas au tout début, parce qu'elle ne change pas, mais dès lors qu'elle a commencé à grossir, elle nous envoyait des photos pour qu'on voit quel point du ventre, etc. Et puis voilà, là, assez rapidement, dès lors qu'on sait, je crois qu'on a attendu les 3 mois quand même, qu'elle est enceinte de 3 mois et que ça a tenu, on s'est précipité pour prendre des billets d'avion et louer un appart pour venir pour les 5 mois, ce qu'on n'avait pas fait par superstition avant, mais voilà, de se dire qu'il fallait le faire, on en avait très envie, et là pour le coup c'est devenu hyper palpable et concret et réel.
Ouais. Et vous avez pu vous déplacer donc aux 5 mois, par rapport à vos boulots respectifs, vous êtes parti combien de temps? Est-ce que ça
Non, là on est parti une semaine en plus. Donc, non, vraiment. Après, moi je suis libéral, donc dans une moindre mesure, je fais un peu ce que je veux Et mon mari, il peut s'arranger aussi quand même. Ça va, il a quelques semaines.
D'accord. Non, parce que ça reste aussi un des points
importants.
C'est ça. Parce que autant sur les premiers rendez-vous, bon, tu peux effectivement rester une semaine, mais au moment de la naissance, c'est pas une semaine. Ah,
c'est un peu plus long. Ouais, c'est un peu plus long. Mais d'accord.
Voilà. Donc, le rendez-vous des 5 mois, c'est le rendez-vous où vous avez découvert le sexe du bébé ?
Ouais, exactement. Et vous coup, alors, ok. Moi, je préférais une fille et mon mari préférait un garçon. Donc, on savait qu'il y en avait deux qui seraient contents. En vrai, on aurait été contents tous les deux. Enfin, la preuve, il est très content alors qu'il préfère un garçon. Mm-hmm. J'aurais été très content si c'était un garçon. Mais on était chacun pour des raisons personnelles et stupides parce qu'en fait, en vrai, on s'en fiche. Mais voilà, après au Canada, c'est un peu spécial parce que personne n'assiste à l'échographie, mais que ce soit nous ou les couples mariés classiques. On attendait dans la salle d'attente, on voyait toutes les femmes partir toutes seules et les mecs rester dans la salle d'attente. Et à la fin, ils viennent vous chercher. Donc en fait, en plus, l'échographie des 5 mois, elle est quand même super longue.
Ouais.
On reste un temps fou dans cette salle sans savoir ce qui se passe, en disant s'il n'y a pas un problème, etc. Enfin, c'est un peu, là aussi, c'est un peu stressant. On a fini par venir nous chercher en disant voilà. Et là, du coup, la personne qui fait, enfin, le technicien, nous montre quelque peu le bébé, mais rapidement, et on nous demande si on veut le sexe, et essaie de nous remontrer brièvement, et voilà, ça va très vite, du coup.
Oui, du coup, ouais, ça, c'est hyper rapide, je me doute. C'est ça. Donc, une petite fille, prévue.
Une petite fille, exactement.
Donc, tu devais être très content.
C'est ça. Donc, l'après-midi, on est sortis, on a été tous les trois avec la main porteuse acheter des vêtements.
D'accord, ok, bah oui, en même temps, c'est souvent ce qu'on fait après cette échographie là.
C'est vrai, vous avez dit qu'elle voulait nous offrir des trucs par Chicken Jules, donc elle était très contente, d'acheter, d'être avec nous pour là. Donc, du coup, voilà, c'était la journée pour nous.
Ah, c'est chouette, c'est chouette. Et donc, bon, il faut repartir, hein, puisque il y a un moment où.
Ça, c'était un peu compliqué.
Voilà, je me doute.
Je veux nous revoir en larmes à l'aéroport en disant qu'on quittait. Donc, quitter notre bébé, qui était pas né du coup, mais que c'était horrible quand vous restez, etc. Après, là, tu fais une raison, tu te dis finalement, il reste pas tant de temps que ça.
Ouais, donc, non, mais c'est sûr qu'après les 4 mois suivants, ils passent hyper vite. Hein.
Ouais, après pour nous, ça passe encore plus vite parce qu'à 32 semaines d'aménorrhée, donc à 7 mois, Jennifer, n'importe qui nous a appelé pour nous dire qu'elle était un samedi, pour nous dire qu'elle était hospitalisée. Et qu'elle avait un souci, et c'est là que tu regrettes de ne pas utiliser les termes médicaux. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que pendant qu'elle te parle, tu tapes des trucs sur Google en même temps, et tu tombes sur des trucs atroces avec un demi-mot que tu as compris. Donc c'est assez horrible. C'est atroce. En plus, il y avait une sage-femme qui parlait un peu français et qui se sentait avec qui ne parlait français, parce qu'elle ne parlait pas français en vrai. En vrai, mais tais-toi, reparle anglais s'il te plaît, parce que c'est pire en anglais. En français, alors arrête, on veut juste savoir ce qui se passe. Au final, c'est quelque chose qui était pour la mère porteuse, qui n'était pas grave, qui pouvait être grave pour le bébé. Et elle avait un suivi plusieurs fois par semaine. En gros, le truc, c'était que si ça assuriait et que si ça stagnait ou ça empirait, il fallait déclencher la tout de suite. Tous les jours, on recommençait, tu sais, le réveil à regarder ton téléphone et tu travailles.
Et puis du coup, pour vous, ça précipitait les choses.
Exactement, parce qu'ils savaient que de toute façon, les médecins nous disaient que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on n'irait pas au terme de la grossesse, c'était évident. Donc,
D'accord. Comment vous avez géré ça?
Très bien.
Parce que c'est vrai que du coup, il faut anticiper un déplacement éventuel, en fait.
Bon, en fait, nous, comme on est très ordonnés et que pareil, c'est quand même... C'est un processus qui coûte quand même très cher. On avait, en fait, enfin, c'est drôle parce qu'elle s'en est beaucoup voulu, la porteuse, d'avoir ce problème médical, alors qu'on ne réglait plus rien la pauvre. Parce qu'en fait, elle n'arrêtait pas de nous dire depuis les tout premiers jours que son plus grand talent dans la vie, c'était d'être enceinte, qu'elle faisait ça merveilleusement bien, qu'elle n'avait jamais eu aucun problème, qu'elle accouchait en claquant des doigts, ce qui était vrai, quasiment le jour du terme à chaque fois, que voilà, qu'en gros,
elle était
c'était son truc, quoi. Donc, nous, on avait réservé comme des bons petits élèves. Nos vols, etc. Enfin, pour venir, on avait déjà tout réservé, du coup. Je crois qu'on avait une semaine avant l'accouchement, enfin, la date prévue, en se disant, bon, bah, voilà, ça devrait être bon, tout va bien. Donc, il a fallu faire un combat, mais sans pouvoir faire quoi que ce soit, parce qu'en fait, tu sais que tu n'iras pas au terme de la procédure, tu ne sais pas quand ça sera. Donc, tu peux pas non plus, enfin, tu peux quand même pas prévoir, puisque ça peut être tous les jours, quoi. Donc,
bien sûr.
C'est un peu compliqué. Et au final, son traitement fonctionnait, ça s'est stabilisé, et du coup, on nous avait dit que, a priori, elle serait déclenchée entre la 36e et la 37e semaine. Donc, on est parti, on avait prévu, du coup, il fallait quand même prévoir un moment ou un autre, de partir à la veille de la 36e semaine.
D'accord. Et elle a finalement tenu jusqu'à 36 semaines ?
Le jour de la 37. Ah, une semaine et un jour après notre arrivée, ça a été déclenché.
Parfait.
On a eu le temps de se remettre du calage horaire et de se promener un peu vraiment, et de profiter d'elle très très grosse jusqu'à la fin de semaine.
C'est ça. Et alors, comment ça se passe un accouchement avec une mère porteuse au Canada ?
Alors, elle était suivie par des midwives. L'équivalent de sage-femme, enfin pas tout à fait l'équivalent, mais un petit peu qui la suivait, qui sont présentes sur là et que nous on connaissait parce que les rendez-vous qu'on avait fait c'était avec elle. Il y avait son mari, il y avait nous, et une sage-femme de l'hôpital et un médecin qui, je pense que c'est un peu comme en France, du coup, qui vient au début et qui revient pour la délivrance, mais qui n'était pas là. Quand on est arrivé, on a été reçu par les pastoquiers à l'hôpital. Pour faire le plan de naissance. Après, on en avait parlé entre nous, tous les trois avant. On nous avait dit qu'elle était totalement disposée à son soir présent si on le voulait, que si on ne le voulait pas, elle le comprenait, qu'en fait, on faisait ce qu'on voulait.
Donc, du coup, vous avez souhaité. Qu'est-ce que vous avez souhaité alors ?
On a souhaité être présent, tous ensemble, et on a évidemment que. Je ne sais plus si c'est elle qui l'a demandé ou si on lui avait dit tout de suite, mais évidemment que son mari soit là. Parce que
et vous avez choisi à ce moment-là à qui le bébé serait remis en premier ou alors, vous avez laissé faire
Nous, on lui a dit, après l'écho des 5 mois, on en a parlé quand on était là-bas en janvier, on lui a dit que si elle le voulait, pour nous, ça nous paraissait naturel qu'elle prenne le bébé en premier. Et si elle ne le souhaitait pas, on voudrait, mais pour nous, ça nous paraissait naturel. Elle n'a pas répondu. Je pense que c'est quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé, et puis c'est vrai, c'était une première pour elle, tout ça, donc je pense qu'elle ne savait pas. Et on n'en a jamais reparlé. Je crois qu'on lui a redit quand on a tourné, je ne sais plus. Mais ça s'est effectivement fait très naturellement, c'est elle qui a reçu le bébé en premier, le temps qu'on coupe le corps du monde avant qu'on le prenne.
Et une question que je n'ai pas abordée d'ailleurs, c'est d'habitude je le fais. Comment vous avez fait le choix du donneur ? Enfin, de qui allait donner ? De vous deux ?
On a fait le choix par rapport à ce qui est important pour nous. Il y en a un de nous deux pour qui c'était relation importante d'avoir une filiation génétique et pas l'autre. Donc au final, c'est plutôt bien.
D'accord. Ok. Et donc ce jour-là, donc c'était
en 2018. En mai 2018.
En mai 2018, c'est ça.
18
mai 2017, voilà. C'est le 18 qui nous perturbe aussi.
C'est ça,
c'est le premier jour du reste de votre vie, clairement.
Exactement.
Vous arrivez au bout du process. Ouais. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que c'est la suite, en fait ? Vous repartez tout de suite avec le bébé ? Vous restez sur place un petit peu ?
Au Canada, c'est atroce parce que c'est un accouchement ambulatoire. Donc, elle est née à 15h, à 15h50 et à 19h, on était tous dans nos voitures.
Oh là là. Il n'y a pas de sas de décompression, quoi.
Non. Et du coup, alors sur le coup, tu n'as pas le choix, mais ça va être une bonne idée. Quand tu te retrouves chez toi à poser ton cosy, tu te dis qu'est-ce qu'on fait là ? C'est atroce. La première nuit, elle est un petit peu compliquée. D'autant qu'on te remet une page entière de recommandations et de choses à laquelle faire attention, et notamment aux arrêts respiratoires.
Oui, c'est rassurant.
On t'explique qu'un bébé, ça peut arrêter de respirer pendant 10, 20, 30 secondes, que c'est pas grave du tout, mais qu'il faut quand même faire attention de la 30 secondes. Je me souviens qu'il mettait entre parenthèses, et c'est très long, qu'il n'ait pas les lèvres bleues, mais enfin, c'est hyper long. Et du coup, voilà, quand tu passes ton temps, je pense que si tu es à la maternité, tu fais un peu ça aussi, hein, mais tu passes ton temps à la regarder, à voir ce qui se passe. C'est très très long. Mais finalement, c'est ressorti en bon état le lendemain matin. C'est un premier succès. Et après, tu t'y mets petit à petit. Au début, en plus, t'es rythmé, comme elle était suivie par Semidwell, en fait, tu as des rendez-vous à J+1, J+3, J+5, enfin, t'as certains rendez-vous. Et en fait, du coup, on avait la sage-femme qui venait joindre la France tous les jours pour faire des visios avec les grands-parents. proche,
bah oui, forcément.
Qui devenait fou de ne pas pouvoir la voir, qui attendait, et puis ben voilà, et t'attends après d'avoir des papiers pour rentrer.
Et ça, ça prend un délai de combien de temps? En gros, c'est quoi là, ce qu'on vous propose?
Alors, ça peut être un peu plus rapide, mais ça a pris quasiment 4 semaines pile, parce qu'on est parti à 4 semaines de sa naissance. En fait, les dispositions légales avaient changé pendant la grossesse, et en fait, on ne pouvait plus. On était obligé d'attendre 7 jours entre la naissance, après la naissance, pour pouvoir déclarer la naissance et faire les papiers. En fait, la mère porteuse n'avait rien le droit de signer pendant 7 jours. En fait, au bout de 7 jours, c'est vrai qu'après les femmes, c'est un peu laissé partir, donc on va nous aider. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé un peu seul face aux papiers. Et on nous a mal renseigné, parce qu'on a tout envoyé. Et on nous a rappelé pour dire, l'état civil nous rappelle pour dire non, ça ne va pas, il faut refaire parce qu'il y a ça qui ne va pas. Nous, on se dit OK, puis tu sais, on est français, donc on se dit, dans le pire, si ça nous défend, on prendra la voiture, on a la rapportée. Et puis, on a été sur Google Maps, et l'Ontario, c'est très, très grand. Donc, en fait, là où on envoyait les papiers, c'était à 24 heures de route. Donc, on s'est dit que non, on n'allait pas y aller. Il fallait qu'on se débrouille autrement, donc on a tout refait. Donc, là, t'es content quand même d'être proche, parce que c'est vrai que t'as beau parler anglais, etc., quand c'est pas ta culture. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, la donneuse nous a vachement aidé, parce qu'elle passait des coups de fil avec sa sœur pour nous, l'administration. Et c'est comment ça se passe, quoi. Donc, c'est beaucoup plus simple.
Ouais.
Et je sais qu'on nous a finalement proposé de faire un passeport provisoire pour Ava, et au final, on a eu son acte de naissance et son passeport le mercredi, on prenait l'après-midi, on prenait l'avion le jeudi après-midi.
D'accord. Et à ce moment-là, vous n'avez plus de conseil juridique, enfin, vous n'avez pas de conseil juridique de la part de l'agence?
Bah, c'est un peu. Tout à l'heure, le côté un peu familial, c'est bien, et des fois, ça merde un peu.
D'accord. Et du coup, tu me disais que c'était la mère porteuse, pardon, que c'était la donneuse qui vous avait aidée, vous l'avez informée, prévenue de la naissance de la petite?
Ah, mais elle est venue la voir dès qu'on est rentré chez nous, à 19h, à 21h, elle était là.
Oh, c'est génial. C'est vraiment génial.
Très proche, hein, un peu.
Aujourd'hui, vous avez encore des contacts fréquents ou réguliers avec les deux?
Fréquents, beaucoup moins fréquents qu'avant, ça c'est sûr. Après, on se suit sur les réseaux sociaux, donc déjà, ça fait un peu comme des amis qui habitent dans le sud de la France, quoi, tu vois, que tu vois, donc c'est un peu le côté positif et négatif des réseaux sociaux, c'est que tu les vois, donc t'as des nouvelles, mais du coup, comme t'as des nouvelles, tu t'en prends pas forcément plus de temps parce que tu vois, c'est un peu ça, et de temps en temps, soit quand on a envie de un truc à se dire ou un truc qui nous fait penser à l'un à l'autre, on sait.
Oui, d'accord. Et alors, donc, arrive le moment où il faut reprendre l'avion pour rentrer avec un nourrisson d'un mois.
Ouais.
Votre bagage d'un mois de parents, donc pas encore hyper expérimenté.
C'est ça.
Comment ça se passe?
Au final, plutôt pas mal. Parce que malgré tout, tu sais que c'est un peu l'effet économie de vacances.
Oui.
Tu sais, tu pars, c'est tes copains, c'est le drame, tu te sépares, etc. Tu ne verras jamais. Là, on sait qu'on allait se revoir, mais tu sais quand même des gens qui m'ont passé un mois, qui nous avaient offert l'opportunité d'avoir un bébé. Sinon, c'est hyper triste, tu ne sais pas quand est-ce que tu pourras revenir le revoir. C'est atroce. Et en même temps, on est venu vers une famille, une vie, etc. Donc, c'était en même temps très cool et très excitant. Tu avais le mélange des deux. Je ne t'apprends pas qu'avec un mois, tu es quand même très fatigué aussi. Donc, tes émotions sont un petit peu lissées par cette fatigue et décuplées, mais en même temps, tu gères différemment, donc ça va. Et puis, au final, après, avec, c'était plutôt très, très cool. On était pas plus que ça. Et après, il faut dire que moi, j'ai vraiment hyper peur de la vie. Donc, le fait d'avoir une émotion, finalement, il fallait que je m'occupe d'elle et ça m'occupait. Donc, moi, j'étais assez content qu'elle soit là, tu vois. Parce que j'avais pas le droit d'avoir peur.
M'étonne.
Donc, le retour, quand le ça va.
D'accord.
C'est un peu la star de l'avion, c'est un bébé, c'est un aussi, enfin, pour le coup, les autres, elles sont toutes en France, c'est un petit bébé, enfin voilà, c'est chouette.
C'est clair. Et donc, une fois revenu en France, est-ce que vous saviez quelles étaient les démarches à faire? Est-ce que vous avez pu faire tout de suite les papiers d'Ava ou est-ce qu'il a fallu attendre un peu?
On a fait assez rapidement les démarches auprès de la Sécu. Parce que c'est un truc qu'on néglige, mais quand tu rentres, t'as rapidement du coup à l'air un mois, donc tout le processus de vaccination notamment à faire. Et ça coûte cher un vaccin, on l'a payé nous-mêmes au début. Donc voilà, ça on l'a fait assez rapidement. tu te rends compte que dès lors que c'est pas dans les cases tes interlocuteurs, ça devient compliqué parce que c'est compliqué, donc elles cherchent pas forcément tous à essayer de savoir comment faudrait faire. Je sais qu'on a eu quelques soucis avec la sécu, avec la carte après cette affaire, mais finalement ça s'est réglé à chaque fois. Et voilà, après pour ces papiers français, on ne l'a pas fait forcément tout de suite parce que ce n'était pas une nécessité. Je vis très très bien avec les papiers canadiens. On l'a fait dans la foulée. Alors après, c'était plus pour un côté pratique parce que c'est vrai qu'avoir un acte de naissance qui est transcrit, c'est plus simple parce qu'au Canada, c'est plus long. Et pour à chaque fois que tu as un extrait d'acte de naissance, il faut payer. Donc c'est un peu chiant quand même.
Non, mais c'est clair.
Et puis voilà, le fait d'avoir une carte d'identité, c'est pareil, ça prend moins de place qu'un passeport, l'avoir dans ta poche, donc c'est problème.
Donc, c'est
plus un côté pratique au début de faire ses papiers. Et puis après, je sais que là, pour le coup, on n'est pas tous à partager les mêmes idées. Mais moi, j'aime bien. Enfin, voilà, techniquement, elle était à demi française aussi, de toute façon. Donc il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas de papier français.
Ouais, complètement. Et vous étiez marié avant ?
On s'était marié avant, on s'est marié en juin 2016, donc juste avant les transferts. On savait être, enfin, je pense qu'on se serait marié plus tard, mais on l'a fait à ce moment-là parce qu'on savait très bien. Il y a plein de gens qui étaient invités qui ont su après pour qu'on se mariait. Il y en a qui savaient déjà pour qu'on se mariait. Voilà.
Oui, marié, qui s'en doutaient quand même.
C'est ça.
Et du coup, vous avez lancé l'adoption pour parce que bon, ouais. Malheureusement, en France, vous n'êtes pas reconnus tous les deux comme.
Non, sinon, on avait fait le choix d'être un seul sur l'acte de naissance. Parce que à cette époque-là, en tout cas, c'était beaucoup plus facile parce qu'il y avait moins de transcriptions automatiques de deux papas. Donc, il y en a qu'un ou deux qui est sur l'acte de naissance. Et alors, c'est pareil, ça pour le coup, on a fait les consentements chez notaire extrêmement rapidement. Et après, on a un peu traîné. Mais on l'a fait relativement rapidement et il y a des difficultés. Oui, il y a des difficultés.
Ouais, t'as pas eu de difficultés parce que c'est vrai que de
ce qu'on a vu, moins
non. Ouais. Voilà, depuis 2019, de mémoire, tout s'est simplifié au niveau de la GPA, de la rentrée des enfants sur le territoire et de l'adoption.
Ouais, l'adoption même avant, c'était plus. Ça a commencé à suivre le régime des couples de lesbiennes, en fait, où l'adoption était beaucoup plus simplifiée. Il y a eu une première phase où tous les dossiers étaient rejetés, puis après ça a été simplifié. Alors, pour les couples de lesbiennes, mais pas pour les couples d'hommes, parce que je sais pas. Et finalement, voilà, là, quand suivant les endroits, c'est quand même de plus en plus accepté et plus pour les adoptions.
D'accord. Je vais te poser une dernière question au niveau de votre parcours. Est-ce que vous avez évoqué, alors, entre vous déjà, la possibilité et la potentialité d'avoir un deuxième enfant ?
On l'a évoqué et si vous... on l'a balayé.
D'accord. Ok, donc je ne vais pas poser la question qui
suit. Non, on l'a balayé parce qu'en fait, on en a beaucoup parlé. Initialement, c'est ce qu'on voulait. Et en fait, notamment, alors c'est au sens très très large, pas que pour le process, mais pour une question financière. Y compris pour le process, mais pour la vie qui suit après. Quoi. On a vie à Paris et on a beaucoup réfléchi à se dire est-ce que, c'est pas quel sera notre niveau de vie dans 10 ans, 2 ans, 10 ans. Est-ce qu'on préfère prendre le risque de se priver et de ne pas forcément pouvoir recruter par mes enfants lorsqu'on est allé recruter, ou est-ce qu'on a un seul enfant et on a plus de choses et que ce soit au niveau de son quotidien, ses études, etc. Donc c'est différent. Si on changeait d'avis, on verra en même temps.
Oui, voilà, c'est clair. Et au niveau financier, justement, on n'a pas non plus abordé ce côté-là. Est-ce que tu as une idée de l'enveloppe globale, du coup, de votre GPA ?
Alors, en tout, ça nous a coûté aux alentours de 60 000 euros.
D'accord.
Le process, le voyage, c'est pas une petite somme. Par exemple, c'était beaucoup moins cher que un process aux États-Unis.
Ah, mais carrément.
Et après, on bénéficiait aussi, après le coup, ça, je ne sais pas encore, je ne sais pas maintenant, mais on bénéficiait d'un avantage. Le taux de change était extrêmement avantageux.
À ce moment-là,
et nous, on avait échangé une très grosse somme d'argent. À un moment, c'était un coup de poker parce que le taux de change était vraiment plus avantageux à ce moment-là.
Oui.
Et on s'est dit, on va le faire. Et effectivement, on a bien pu le faire parce qu'on vérifiait, on a fait au meilleur moment, ça ne savait rien. Mais ça nous a vachement aidé aussi. Enfin,
Ouais, c'est vrai qu'il faut aussi réfléchir à ça, c'est clair. C'est clair. Est-ce que, enfin, je t'ai déjà dit que c'était la dernière question, je pense à ça. Au niveau, est-ce que les cliniques, enfin, les agences, te proposent un financement ou tu dois passer par ton financement, enfin, tu dois trouver un financement de ton côté?
Pas du tout. Enfin, il y a peut-être des endroits où je le fais, mais pas du
D'accord.
tout.
D'accord. Donc, du coup, vous avez dû trouver votre financement tout seul.
Oui, tout seul.
Et je suppose qu'aller voir un banquier en lui expliquant le motif de la demande de prêt, c'est pas simple.
Ah non. C'est ce qu'on appelle. Après, je sais que moi, j'avais ma conseillère qui était, alors c'était pas ma copine, hein, mais qui était plutôt open et j'ai fini par le balancer pendant le rendez-vous, on en parlait parce que voilà. Et mon mari, il avait même conseillé depuis très longtemps, qui connaissait bien, et il l'a dit très ouvertement.
D'accord, ok.
Et ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, on n'a plus aucune. Après, le seul endroit où on a menti, c'est que, enfin, sinon, c'est pas nous d'ailleurs. Enfin, on a juste accepté le mensonge qui nous était proposé. C'est parce que du coup, on a fait une hypothèque sur notre appart pour le prêt qu'on a souscrit pour le GDR. Et le notaire qui signait l'hypothèque nous disait mais donc, j'imagine que c'est pour faire des travaux.
Mm-hmm.
Oui, c'est ça. Et de faire un cours de droit sur les travaux d'amélioration de notre appartement. Voilà. Du coup, on a laissé déjà parce qu'on ne voulait pas se lancer là-dedans. Mais sinon, non. Enfin, et après, moi, je connais pas mal de gens qui ont parlé ouvertement à leur banquier. Alors c'est vrai que si tu viens d'arriver dans une banque, je pense que c'est un peu
compliqué. Oui, voilà. Je pense que tout le monde n'est pas non plus ouvert de la même façon, mais bon.
Non, en vrai, de vrai, enfin, par contre, je pense que les gens dans la vraie vie, et pas dans les journaux, dans les familles, tout ça, je pense que les gens sont de plus en plus ouverts sur la question.
Ouais. Je vais te poser les dernières questions, de celles que je pose habituellement en fin d'épisode. La première, c'est: est-ce qu'un enfant peut être heureux avec deux papas?
J'ai l'impression. Mon quotidien me fait dire que oui. Mon entourage aussi. Donc, c'est des questions que tu te poses un peu avant, que tu te poses après. Tu regardes. Enfin, je sais que je pense qu'en avoir là avec d'autres couples de papas, t'as toujours cette espèce de chose où t'as l'impression que tu passes encore mieux que les autres parce qu'on t'attend au tournant. Du coup, tu regardes beaucoup et t'es très attentif au retour qu'on te fait. Et je te confirme qu'après 3 ans de crèche, notamment, elle m'a dit au revoir au mois de juillet. On n'a pas arrêté de me dire à quel point la fille était épanouie et heureuse. Et tout se passait bien. Donc, et puis de la voir tous les jours, a priori, elle a l'air tout aussi heureuse que les enfants qui sont en train de
même.
J'ai aucun souci à ce point.
Enfant d'un couple qui s'aime.
Exactement. Ouais.
Ok, enfin, en même temps, on n'en doutait pas. Hein.
Non, moi non.
Moi non plus, je te rassure. Et ma dernière question sera donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? De continuer à être heureux tous les trois. Et continuer à grandir correctement et à nous rendre heureux.
Et c'est ce que je vous souhaite, parce que vous avez l'air d'être complètement à l'aise dans vos baskets. Alors, évidemment, je parle en ton nom surtout. Hein.
Lui aussi, ça va, je te rassure.
Honnêtement, c'est une belle histoire que tu viens de me raconter. Je pense qu'on a pu aborder des points que je n'avais pas encore abordés, parce que moi aussi, ma réflexion, il faut qu'elle avance. Et clairement, voilà, c'est pas mon quotidien, moi. Voilà. En tout cas, ouais, ça ne fait qu'enfoncer le clou du fait que nos familles sont belles et sont heureuses.
Ouais, c'est clair.
Je te remercie encore beaucoup, Rémi, de t'être rendu disponible pour cet entretien. Et je serai ravie de découvrir en photo ta famille, évidemment, quand tu pourras m'en envoyer.
Avec joie.
Merci beaucoup. À très bientôt.
Merci à toi. Au revoir.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et plus particulièrement sur Apple Podcast, afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, et plus nous aiderons d'autres familles à se construire, et ainsi, plus nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Ainsi que le site de l'APGL et l'autre association dont Rémi parle dans l'entretien, Men Having Babies. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast Les Enfants vont mieux. D'ici là, prenez soin de vous. Ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Joe.
Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Less alone.